Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
C'est parti, excellent réveil à tous, il est 6h57, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur RMC, Story, c'est vendredi. Ça c'est la première bonne nouvelle du jour, il n'y en a pas beaucoup d'autres, mais celle-là, au moins on est sûr de notre coup. C'est vendredi, c'est bientôt le week-end, on est ensemble jusqu'à 9h avec l'historien Arthur Chevalier, avec l'économiste Emmanuel Lechip. Bonjour à tous les deux. Imaginez, vous êtes auto-entrepreneur et un jour vous vous connectez avec vos codes et on vous dit que ça n'est plus votre entreprise. Vous vous êtes fait littéralement voler votre entreprise. C'est ce qui s'est passé pour cette victime d'une fraude au Cabis qui sera avec nous dans un instant. L'intégralité de sa trésorerie a été volée. Elle ne peut plus utiliser sa société. Elle sera dans ce studio dans 10 minutes. Elle nous racontera ce phénomène qui est en pleine explosion, les fraudes au Cabis, Emmanuel.
Oui, comme si la conjoncture n'était pas assez difficile pour les petites entreprises. En fait, la technologie profite beaucoup aux fraudeurs. Et là, on voit qu'il y a une explosion des cas, hein, 100% d'augmentation des cas de fraude au Cabis depuis 2 ans. Donc c'est un véritable fléau.
Ne manquez pas son témoignage si vous-même vous êtes à la tête de votre société ou de votre petite société pour essayer de comprendre comment l'éviter. Et puis comme chaque vendredi, c'est pas le jour des propositions politiques, hein, ça c'est du lundi au jeudi à 7h50. Non, le vendredi c'est la grande interview. Et ce matin, on va parler de votre santé. C'est le patron de Sanofi France qui sera avec nous sur RMC. Il a choisi RMC alors qu'il s'exprime très rarement. Fabricant mondial de médicaments évidemment, de vaccins. On va parler budget de la Sécu, état de la France, souveraineté industrielle. Emmanuel et Arthur, vous avez des questions pour lui ?
Moi j'en ai une, c'est la dégringolade de la production de médicaments en France. On était premier, maintenant on est sixième. Ça a été en moins de 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà. Emmanuel,
on est devenu un pays consommateur. Enfin, on était un pays producteur, on est devenu un pays consommateur.
À grande
Comment
vitesse
on fait pour récupérer notre souveraineté.
Et notre souveraineté et notre croissance, parce que c'est la mauvaise nouvelle aussi hier. Non seulement la croissance française décroche, moitié moins que ce qui était prévu, mais surtout on est l'homme malade de l'Europe. On fait moitié moins que nos voisins européens. La France qui décroche, j'en parlerai aussi avec mon invité à 8h30, Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie. Il sera avec nous donc à 8h30. On parlera aussi de cette enseignante menacée de décapitation par un parent d'élève. Ça s'est passé près de Toulouse. Ça a fait réagir le ministre de l'Éducation et on parlera de l'émotion des profs. Ce sera à 8h10. N'hésitez pas à nous appeler. Voilà, vous avez le programme de la matinée. Il est 6h59. Dans un instant, le journal de 7h, mais tout de suite la météo et Géraldine, il y a la pluie au nord, du soleil au sud. On revient sur un bon classique.
Un grand classique, oui. Alors, de la pluie, c'est vite dit parce qu'il va vraiment y avoir quelques gouttes, hein, cette perturbation qui arrive ce matin par les côtes de la Manche, qui va assez peu s'enfoncer, hein, finalement. Qui va toucher jusqu'au pays de la Loire, l'Île-de-France en fin d'après-midi. Partout ailleurs, donc sur les trois quarts du pays, ce sera du soleil, toujours avec du vent près de la Méditerranée. Et puis les températures qui remontent et on repasse déjà au-dessus des normales de saison pour cet après-midi. 21 à 26 degrés sur la plupart des régions, 22 à Lille, 24 à Paris, 25 à Bordeaux, Lyon. Comptez 27 à 30 près de la Méditerranée. Puis les températures qui vont encore s'envoler pendant le week-end avec les 30 degrés qui devraient être dépassés dès demain en Occitanie.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Il est 7h, excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il a menacé une enseignante de lui couper la tête. Un père de famille vient de passer sa première nuit en prison, condamné hier à 6 mois ferme. Hausse des coûts de l'énergie, recul du pouvoir d'achat, l'économie du pays décroche. Alerte de l'INSEE qui revoit encore ses prévisions pour 2026 à la baisse. Et Lens, miraculé en Ligue des Champions, revenu de l'enfer, mené 2-1 dans le temps réglementaire. Les Saint-Eor renversent le Slavia Prague, 3-2.
Condamné pour avoir menacé de mort une enseignante.
Mécontent d'une sanction infligée à son fils, un père de famille a menacé l'institutrice de la décapiter. Ça s'est passé la semaine dernière au Foga, petite commune de moins de 3000 habitants en Haute-Garonne, jugée hier en comparution immédiate. L'homme, condamné à 6 mois de prison ferme avec effet immédiat, vient de passer sa première nuit derrière les barreaux. Une peine rare. Et cela a même surpris les parties civiles. Constance Bostoen.
Oui, à la sortie de l'audience, l'avocat des parties civiles, maître Momasso, ne cache pas sa surprise.
C'est quelque chose de rarissime. Je pense que le tribunal a pris en compte les souffrances de la partie civile, a pris en compte le trouble à l'ordre public que ses propos ont occasionné dans la communauté enseignante.
Interrogé quelques minutes plus tôt, le père de famille s'est excusé d'une voix faible. « Je ne suis pas quelqu'un de violent à la base. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là », explique-t-il. Il assure avoir compris la peur qu'a ressentie l'enseignante, qui est aujourd'hui traumatisée et en arrêt maladie, comme l'a souligné son avocat.
Elle n'est pas venue crier vengeance. Tout ce qu'elle voulait, cette dame, c'est qu'on la reconnaisse en qualité de partie civile et qu'on mesure la souffrance et les conséquences que de tels propos ont eu sur sa qualité de vie.
Le père de famille a également été condamné à lui verser 1 euro symbolique.
Et ne manquez pas, à 8h10 sur RMC, le représentant du syndicat des directeurs et directrices d'école, il sera en direct avec nous à 8h10, mais d'ici là je vous attends, n'hésitez pas, vos réactions au 32-16.
RMC, il est 7h02. Se chauffer cet hiver va vous coûter cher. Le prix de référence du gaz va encore grimper, plus 6,3% au 1er octobre. 6 millions de foyers sont concernés. Encore un coup porté au portefeuille des Français, déjà impacté par la hausse des coûts du carburant. Les prix à la pompe s'envolent, portés par la guerre au Moyen-Orient, qui a une autre conséquence, celle de plomber la croissance. L'INSEE revoit ses prévisions à la baisse pour l'année en cours, à 0,4 points contre 0,7 initialement prévu. Mais ce qui surprend, c'est que la France décroche par rapport à ses voisins européens. Victor Joannin, comment expliquer cette particularité ?
Eh bien, plusieurs facteurs ont joué. L'impact des vagues de chaleur dans l'agriculture avec des récoltes catastrophiques, l'arrivée des nouvelles équipes dans les mairies après les municipales, et oui, les nouveaux élus mettent du temps à relancer les travaux publics, et le manque d'impulsion budgétaire. L'État n'a pas assez d'argent pour relancer l'activité à grands coûts de dépenses publiques, contrairement à l'Allemagne par exemple, et c'est ce manque d'investissement public comme privé d'ailleurs qui inquiète l'économiste Anne-Sophie Alsif.
Les chiffres montrent qu'il y a un phénomène d'appauvrissement. Et c'est vraiment dû à cet investissement dans l'avenir, dans toutes ces transitions qui est insuffisant. Et c'est ça qui, à mon sens, est très compliqué. C'est-à-dire que pendant qu'on n'arrive pas à mettre en place des réformes, des programmes structurels, les autres le font. Avance pendant que nous stagnons.
L'économie stagne, le marché de l'emploi aussi, et le taux de chômage devrait donc continuer de grimper, 8,6% à la fin de l'année, prédit l'INSEE, soit près de 100 000 chômeurs de plus qu'aujourd'hui.
Et le gouvernement continue de faire la chasse aux économies. Il va durcir les règles d'indemnisation liées aux arrêts maladie, visant à abaisser de 3 à 1 an la durée d'indemnisation dont bénéficient certains patients à titre dérogatoire.
7h04 sur RMC. Nouveau rendez-vous judiciaire pour Cédric Jubilard.
Jugé en appel au printemps prochain après ses aveux pour le meurtre de sa femme Delphine, le peintre plaquiste en détention depuis 5 ans va retrouver son domicile Romain Houx. Ce sera le mois prochain pour une reconstitution.
Oui, selon nos informations, cette reconstitution aura lieu à Cagnac-les-Mines le 2 octobre. Elle doit permettre de replacer Cédric Jubilard dans les circonstances précises de cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. Le principe est de l'amener devant témoin à reproduire ses gestes et déplacements de la manière la plus fidèle possible et de confirmer ou d'infirmer la version du peintre plaquiste de 38 ans qui évoque une énième dispute conjugale qui aurait dégénéré. Cette reconstitution a été ordonnée par la justice dans le cadre du supplément d'information ouvert début juillet après les aveux de Cédric Jubilard qui avait expliqué avoir tué son épouse, puis transporter son corps dans le coffre de sa voiture avant de le dissimuler sous un monticule de compost dans un champ à plus d'une dizaine de kilomètres de là, à Mayoque. Une autre reconstitution est d'ailleurs prévue sur place.
Et les précisions ce matin de Romain Houx. C'est l'événement politique et culturel du week-end, la 91e édition de la Fête de l'Humanité jusqu'à dimanche dans l'Essonne, avec un meeting de Fabien Roussel, mais aussi Jean-Luc Mélenchon, invité pour l'occasion au festival aux allures de présidentielle. À 7 mois du scrutin, les candidatures sont nombreuses, chaque candidat se monte sur le terrain, tous ou presque. Exception faite de Marine Le Pen, elle sera au Touquet pour les journées parlementaires du RN avant un meeting dans son fief des Nains-Beaumont dimanche. Il faut dire, Sonia Gobry, que la candidate RN s'est faite plutôt discrète dans cette rentrée compliquée pour le parti.
Oui, les polémiques s'enchaînent et révèlent des fissures à la tête du RN, cacophonie sur le voile, silence de Marine Le Pen quand Jordan Bardella essuie un torrent de critiques après avoir signé un accord symbolique sur le renvoi en France de migrants interceptés dans les eaux britanniques. Il y a eu aussi le départ retentissant du conseiller économique François Durvie, écarté après avoir incité Jordan Bardella à défier Marine Le Pen en se lançant dans la course à l'Elysée. Et dans cette liste non exhaustive, on peut ajouter les tensions autour de la présence de Marion Maréchal dans la campagne de sa tante. Selon plusieurs sources, sources, ce retour est vu d'un mauvais œil par Jordan Bardella. Mais les cadres du RN jurent que le duo est toujours aussi soudé. Ils s'afficheront ensemble dimanche à Hénin-Beaumont, mais seule Marine Le Pen prendra la parole. Elle va siffler la fin de la récré, se rassure un de ses fidèles.
Les commémorations du 11 septembre, ce vendredi à New York, 25 ans après l'attaque des deux tours du World Trade Center, sans Donald Trump, qui sera lui au Pentagone également ciblé ce jour-là.
Et puis un comeback spectaculaire en Ligue des Champions.
Celui de Lens, mené 2-1 hier dans le temps réglementaire sur la pelouse du Slavia Prague. Les Sang et Or n'ont rien lâché et finalement renversent le match à leur avantage dans le temps additionnel. Victoire 3-2, Valentin Jamin.
Oui, quand Ruben Aguilar marque le but vainqueur, tous les Lensois se jettent sur le défenseur euphorique. Après avoir été mené 2-1 en fin de match, le héros du soir n'en revient pas.
Il rentre dans mon top 3 des scénarios les plus fabuleux, je pense. Le football, c'est le meilleur sport au monde, je pense, pour vivre de telles émotions. Jamais de la vie, on se serait dit on va gagner, mais on y a cru. Pour rentrer dans la plus belle des compétitions, rentrer comme ça, montrer qu'on est un club qui lâche jamais rien, ben c'est important d'envoyer un message fort aussi.
Lens en supériorité numérique pendant une mi-temps, pensait pourtant tout perdre 5 minutes avant lors du deuxième but des Tchèques. Mais les Sang et Or ont donc tout renversé dans le temps additionnel. Du jamais vu dans un match à l'extérieur en Ligue des Champions, l'entraîneur Dino Topmüller a adoré.
Tout le monde a dit, allez, comme, reviens vite, on veut encore, et on cherche la victoire.
J'espère et je pense qu'il y a beaucoup des gens qui ne vont jamais oublier cette soirée-là.
Le contenu n'a pas été convaincant, mais peu importe, les 1000 supporters ont pu fêter la victoire en attendant le prochain rendez-vous à domicile contre le Sporting Portugal, mi-octobre.
Et place à la Ligue 1 ce soir après deux défaites de rang. Victoire impérative pour l'OM en déplacement sur la pelouse de Rennes. Ouverture de la quatrième journée à vivre sur RMC. Et puis la Fédération Française de Foot qui retire son soutien à Gianni Infantino. Confirmation de Philippe Diallo qui en détaille les raisons au micro d'RMC avec un point de rupture. La vente de la Coupe du Monde à des investisseurs privés annoncée cet été reste désormais à trouver un candidat capable de renverser le président de la FIFA aux prochaines élections.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Compte bancaire vidé, trésorerie envolée. Votre entreprise n'est tout simplement plus à votre nom. Bonjour Clara. Clara Robert, vous êtes architecte d'intérieur, décoratrice. Vous vous êtes fait voler votre entreprise il y a quelques jours, victime d'une fraude au CABIS. C'est ce document que tous les chefs d'entreprise connaissent évidemment très bien. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà votre parti pris dans un instant et vous venez témoigner auprès de nous. Écoutez attentivement les uns et les autres parce que effectivement, ça permet d'éviter de vivre ce que vient de vivre Clara. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Après le vol des données, après les cyberattaques, les usurpations d'identité. Voilà maintenant le vol au CABIS. Clara Robert, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes architecte d'intérieur et décoratrice. Vous êtes à la tête de votre entreprise. C'est une SAS. Et vous vous êtes fait voler votre entreprise cet été. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé que j'ai un fraudeur qui a établi des faux documents, donc un faux PV d'Assemblée Générale mentionnant que je démissionnais de mon statut de dirigeant et de mandataire légal de ma société. Une fausse lettre de démission qu'il a envoyée donc au greffe de Nanterre en demandant à prendre le contrôle de ma société à ma place puisque je l'avais nommé. Le greffe de Nanterre a validé ces faux documents, ne pensant pas que c'était des faux documents évidemment. Lui a fait donc le nouveau CABIS, sans me prévenir à quelque moment que ce soit, ni me demander de venir signer un papier ou de me présenter. Enfin, il y a
eu aucune alerte.
Donc, ce monsieur a réussi à avoir le nouveau CABIS de ma société à son nom, le mentionnant comme représentant légal et mandataire de ma société. Il a ensuite envoyé ce nouveau CABIS à ma banque, donc qui est néobanque pour les entreprises, lui demandant d'avoir accès à mes comptes et de me radier de mon compte, ce que la banque a accepté, pareil, sans aucune vérification
tout
en amont.
Ça s'est passé par Internet, il n'y a pas
tout
eu
ça s'est passé
fil,
par Internet.
Ils
nous
ont demandé de signer aucun document, rien.
Rien, aucune demande. Alors, normalement, la banque dans laquelle je suis, la néobanque de mon compte professionnel d'entreprise, demande normalement, en cas de changement de dirigeant, que l'ancien dirigeant fasse une vidéo avec sa carte d'identité, mentionnant le nom de la banque et la date, disant voilà effectivement.
Ça, ils n'ont pas fait.
Non.
Donc rien du tout. Donc comment vous vous en rendez compte ?
Je m'en rends compte mardi en faisant une facture pour un de mes clients dont le chantier reprenait jeudi matin. Donc je rentre mes identifiants de connexion et là je tombe sur une page qui n'est pas la page habituelle, enfin l'interface de mon compte professionnel, sur une page qui me dit bienvenue Clara, reprenons, on en est-on ? Voulez-vous toujours créer votre société ? Je me dis, mais il y a un bug. Je fais le chatbot, bonjour, bonsoir, pouvez-vous m'aider ? J'arrive plus à me connecter. Donc là, ne quittez pas, je me renseigne. Il revient vers moi 10 minutes après, il me dit, bah écoutez, non, c'est normal, votre mail professionnel n'est plus rattaché à votre compte bancaire, puisque nous avons reçu un nouveau cabis ce matin pour le nouveau dirigeant. Donc là, je tombe de ma chaise, je dis, quel nouveau dirigeant? Enfin, c'est moi, je comprends pas, je me suis encore connectée ce matin. Donc ils refont des vérifications et donc là je le fais, j'appelle ma comptable, je regarde et effectivement donc en demandant mon nouveau cabis, je vois que ce monsieur apparaît comme nouveau dirigeant, comme nouveau mandataire légal de ma société.
Vous savez qui c'est, vous avez son nom et vous avez forcément aussi ses coordonnées. Vous pouvez porter plainte, est-ce qu'il y a une procédure en cours?
Alors j'ai porté plainte, c'est ce que m'a demandé ma banque, parce que je leur ai demandé au tout début de geler les comptes, en leur disant, attendez, c'est une usurpation d'identité, il va vider mes comptes et ce n'est pas moi qui suis derrière ce changement de dirigeant. La banque a refusé, me disant, bah non, c'est un cabis officiel du greffe de Nanterre.
Parce que de fait, ce document-là, c'est un vrai.
C'est un vrai.
Puisque le tribunal de Nanterre a effectivement établi un véritable cabis.
Sur présentation de faux. Mais ça, c'est à prouver, l'enquête est en cours.
Et l'objectif du fraudeur, concrètement, c'est quoi? C'est juste de...
C'est vider mes comptes.
Il n'y a pas l'intention de gérer ta boîte à votre place.
Je ne pense pas qu'il veuille devenir architecte d'intérieur.
Une fois qu'il aura vidé vos comptes...
Je pense qu'il va soit liquider la société, parce que moi, a priori, je vais pas la récupérer. Il faut que je refasse soit une nouvelle société, soit que je fasse une procédure en jugement de nullité pour être remboursée de tout ce qui a été pris. Mais c'est des procédures qui sont très longues. Donc, aujourd'hui, clairement, je...
Vous ne pouvez plus travailler. Vous ne pouvez plus facturer. Vous ne pouvez plus vous verser de salaire. Non. Vous ne pouvez plus rien faire.
Je ne peux plus rien faire.
Vous ne pouvez plus rien faire.
J'ai perdu ma société du jour au lendemain. J'ai perdu 4 ans de travail.
Arthur.
Ouais, je remarque quand même une chose, c'est que l'État protège de moins en moins bien nos données. Et c'est paradoxal, parce que d'un côté, on nous demande de passer au tout numérique. On a la facturation électronique, évidemment. Cet été, il y a eu la fuite des directions générales des finances publiques avec des données personnelles très confidentielles de milliers de Français. À mon aîné, on ne peut pas construire des cathédrales juridiques qui sont censées nous protéger, puisqu'en fait, c'est ce qu'on fait. La grande directive européenne, c'est la directive NIS2 qui était censée être le pare-feu à tout. Mais le problème, c'est qu'on fait que des règlements, mais rien d'opérationnel. Or, on ne combat pas les hackers et les fraudeurs avec des règles, mais avec des hackers et des combattants. Et ça, c'est le grand point noir, l'angle mort du combat contre
le vol. Que vous a-t-on répondu au tribunal de Nanterre?
Alors, le tribunal de Nanterre, je les ai eus hier, donc au bout de 48 heures. Donc, j'ai fait un premier mail le mardi soir, très tourné, très procédurier, en demandant quelle procédure exacte avait été menée. Je demandais accès aux documents, voir le faux PV d'Assemblée Générale, voir ma fausse lettre de démission. Donc, ils m'ont recontacté hier en me demandant donc le dépôt de plainte que j'ai envoyé. Donc là, ça suit son cours, mais ils sont pas en mesure de me donner un délai.
Et la banque, elle est fautive aussi.
La banque est fautive aussi, mais en fait, elle doit attendre un jugement en nullité du tribunal de commerce et du greffe de Nanterre pour soit geler les actions de ce monsieur sur mon compte, soit me redonner les accès. Mais c'est pareil, ça se fait pas. Donc la banque, je les ai eu 10 minutes en ligne en 3 jours. Ils sont complètement
aux abonnés absents.
Oui.
Clara, est-ce que vous avez pu remonter le fil pour essayer de comprendre quel document au départ? Est-ce qu'il y a eu une vol de données? Est-ce qu'il y a eu... Qu'est-ce qui a permis à cet individu de se faire passer pour vous, enfin de vous usurper votre entreprise?
Alors je pense, d'après ce qu'a l'air de dire le commissariat, qu'il a récupéré ma carte d'identité, ce qu'il en a besoin au greffe pour valider une lettre de démission d'un ancien dirigeant et un procès-verbal d'AG. Donc il a récupéré ma carte d'identité, je ne sais où. Moi je l'ai pas envoyée en ligne à part effectivement pour une mutuelle au printemps, qui a eu, je crois, après un piratage au mois de mai.
Voilà.
Toujours la même chose.
Voilà.
Je pense qu'il l'a récupéré ici. Enfin, c'est ce qui semble se dessiner. Mais en tout cas, il a eu accès à ma carte d'identité. C'est ce
qui
lui a
permis. Appelez à une très grande vigilance, à davantage de contrôle. Merci d'avoir partagé avec nous ce matin votre expérience. Bon courage.
Merci beaucoup.
Dans les méandres désormais de votre combat, Clara Robert. Je rappelle que vous êtes architecte d'intérieur et décoratrice, et donc désormais à la tête d'une entreprise fantôme qui a donc été piratée, volée pour vous. Merci à vous. N'hésitez pas d'ailleurs au 3216 à nous appeler si ça vous est arrivé ou si vous avez eu ce genre de soupçons. Venez également réagir. Il est 7h18 sur RMC. Virginie est avec nous, qui nous appelle de Vendée. Bonjour Virginie.
Bonjour Apolline.
Virginie, vous avez une très très bonne nouvelle.
Mais oui, je vais voir Céline Dion dans
4 jours. Oh là là, je suis tellement jaloux.
Oh là 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 là. Extraordinaire. Vous êtes infirmière au bloc opératoire à l'hôpital à La Roche-sur-Yon. Vous y allez avec qui?
Je vais avec mes meilleurs amis, avec ma sœur. Ça va être formidable.
Oh, j'adore, j'adore. Et donc, vous avez entendu ce matin, depuis le petit matin sur RMC, on chante.
Oui, c'est ça. Mais alors, moi, je chante aussi. D'ailleurs, je vais dire à Clément qui m'a appelé dans ma voiture. Alors que j'écoutais Céline Dion à fond, ça suffit maintenant.
Il ne faut pas vous déranger quand vous écoutez Céline Dion à fond. Ouais, c'est-à-dire que là, vous allez vous mettre dans une bulle Céline Dion pendant les jours qui viennent.
Alors, ça fait déjà plusieurs semaines depuis qu'on a les places, en fait. Et au travail, j'avoue qu'ils en ont un peu marre. Ils en ont un peu marre parce que j'écoute Céline Dion très, très fort. Bon, avant que les patients rentrent en salle, hein.
Bien sûr,
mais ça peut les détendre.
Moi, je trouve, avant une opération, honnêtement, ça ne peut pas faire de mal.
Oui, moi qui hurle ma prière païenne, non, ça ne va pas les détendre.
Oh là,
donc.
Ah ouais. Quelle bonne chanson.
Et en famille, ça va? Ils vous acceptent encore?
Ah bah ma fille qui a 4 ans et demi connaît la discographie de Céline Dion par cœur, donc c'est cool. Je l'emmènerai dans 10 ans si elle fait les concerts.
C'est la France Céline Dion, littéralement la France Céline Dion dans laquelle on rentre pour plusieurs semaines. Merci Virginie, on pensera très fort à vous mardi. N'hésitez pas à nous appeler mercredi pour nous raconter comment ça s'est passé. Bonne journée à vous. Il est 7h20 et à 7h20 c'est l'heure de remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, de quoi nous parlez-vous ce matin?
Eh bien, je vous parle de Donald Trump qui propose 5 000 $ à tous les citoyens américains adultes, si et seulement si ils gagnent les élections législatives. Donc c'est le populisme le plus grotesque, mais ça n'est pas inédit puisque Jules César a inventé les distributions d'argent pour séduire les classes populaires.
Donc Donald Trump, c'est le nouveau succès.
Exactement.
César. Il y aura aussi Arnaud Demange qui arrive pour pirater le face-à-face. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21, on remonte le temps, comme chaque jour, avec Arthur Chevalier. Arthur, écoutez ce que dit Donald Trump, voilà ce qu'il promet. Il promet...
I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
$5,000. 5 000 $, voilà la somme que Donald Trump promet donc de verser à tous les citoyens adultes des États-Unis, mais à une condition.
Oui, et cette condition, c'est que le Parti républicain, donc le parti de Donald Trump, remporte les élections législatives de début novembre, les fameuses midterms. Mais attention, pour empocher la somme, il faut qu'il gagne à la fois la Chambre des représentants et le Sénat. Alors c'est un montant faramineux pour cette opération, 1350 milliards de dollars. Et Donald Trump est resté très vague sur le financement, évidemment. Il s'est contenté de dire que cette somme pourrait être reversée grâce, je cite, à nos succès économiques, comme un dividende si vous préférez. La réalité, c'est que Trump a surtout de très mauvais sondages et c'est un peu tout ce qu'il a trouvé pour remonter la pente.
En d'autres termes, il essaye d'acheter l'élection.
Ah bah, il n'y a pas d'autre mot là. Distribuer de l'argent, c'est le stade ultime du populisme. La méthode n'est pas nouvelle. Et c'est une invention de Jules César, car figurez-vous que César, c'est le modèle originel de Donald Trump. Lui aussi était issu de la haute société, et lui aussi fondait sa popularité sur sa proximité avec les classes populaires. Et alors, il ne reculait devant rien pour leur plaire. Pour célébrer ses victoires militaires, il organisait des grandes fêtes à Rome, des fêtes où il distribuait donc des milliers de pièces de monnaie à son effigie. Mais il y a encore plus fort, puisque sur son testament, César a légué 300 sesterces par personne. Les sesterces, c'est la monnaie romaine. Donc 300 sesterces aux citoyens les plus modestes de Rome. 300 sesterces, ça faisait à peu près 1000 euros par personne. Populiste jusque dans la tombe.
Les rois de France ont tenté d'employer la même méthode.
Mais oui, avec l'argent, on se fait aimer. Nos rois l'avaient bien compris. Quand ils arrivaient dans une ville de France, en voyage officiel, si vous préférez, c'était évidemment toujours un événement. Et c'est à cette occasion qu'ils distribuaient des pièces d'argent et des pièces d'or en les balançant comme ça à la foule. Ça faisait plaisir à tout le monde. Mais enfin, c'était surtout un bon moyen de faire venir les gens aussi, forcément, quand on les paye. Et puis, ça montrait que le roi était bon, généreux avec son peuple. Et avec les pauvres.
Aujourd'hui, ça se pratique encore ou pas?
Alors, en fait, quand même assez rarement, mais ça arrive. Et une des dernières fois où c'est arrivé, c'était déjà aux États-Unis. En 2001, après l'explosion de la bulle Internet qui avait fait beaucoup de dégâts, le président George W. Bush avait envoyé des chèques aux Américains. Alors, des chèques qui étaient censés correspondre à un remboursement d'impôts. Un remboursement, en fait, qui n'était justifié par rien. C'était surtout un cadeau purement électoraliste. Mais là, ce que fait Trump, c'est autre chose, puisque c'est promettre de l'argent avant un vote, ce qui revient à essayer d'acheter l'opinion et la démocratie.
Promettre qu'on va annuler une partie de la dette, c'est aussi une forme de
cadeau. C'est moins sonnant et trébuchant,
oui, mais c'est une forme d'achat de l'élection présidentielle.
Bien sûr.
Et effectivement, c'est passionnant. L'histoire en écho à l'actualité tous les jours avec Arthur Chevalier. Il est 7h24, c'est l'heure d'Arnaud Demange.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Salut,
et bonjour.
Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je recevrai Thierry Breton, l'ancien commissaire européen et ancien ministre de l'économie.
Eh oui, Thierry Breton. Thierry Breton qui n'est pas breton,
non,
d'ailleurs.
Non, il n'est
pas. Ça marche pas à chaque fois. C'est comme Manu Le Chypre qui n'est pas de Chypre.
Non.
Alors qu'Arthur Chevalier, il est vraiment chevalier.
Oui, bien sûr.
Alors, on parle de Thierry Breton comme candidat pour 2027 et c'est une nouveauté cette saison dans votre face-à-face, Apolline. RMC s'associe à la Française des Jeux pour le bingo des invités.
Et oui, un bingo qui aura lieu dans une heure chez Apolline. Et chers auditeurs, vous pouvez encore jouer en cochant les cases de votre grille. Que va dire Thierry Breton ? Plusieurs possibilités comme « Écoutez, je n'exclus rien pour 2027 » ou bien « Si les conditions d'un rassemblement sont réunies, pourquoi pas, mais on n'en est pas là ». Ou encore, non, en fait, je vais rallier Gabriel Attal, parce que je suis breton, alors la tournée des 1000 bistrots, ça me parle forcément un peu.
Très bien, cette case-là.
Oui. Non, ça le ferait un peu, en plus. Thierry Breton, on dirait Jean-Louis Borloo, qui a fait une bonne nuit de sommeil, ça lui correspondrait bien.
C'est bon.
Non, mais c'est vrai.
Alors, le gouvernement planche sur un nouveau budget. Aux abris! Oui. Tous aux abris! Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de demander au gouvernement qui a fait exploser la dette de trouver une solution? Sur la dette, hein? Est-ce que t'as envie de te faire opérer du bide par le chirurgien qui a oublié ses ciseaux à l'intérieur la dernière fois? Le lien de confiance est rompu quand même. Manu Le Chypre me disait dans les couloirs, tu confies Google au gouvernement, en 6 mois c'est Wanadoo. Thierry Breton appelle à réguler l'intelligence artificielle. Alors cette semaine, c'était flippant, vous avez vu, il y a plein d'ingénieurs spécialisés qui ont annoncé que l'IA pourrait exterminer l'humanité parce qu'elle devient trop intelligente. Ça ne m'inquiète mais tellement pas. Ça fait longtemps qu'elle est déjà plus intelligente que les Français déjà. Vous avez vu notre classement PISA ?
Oui.
Nous, l'intelligence artificielle nous a dépassé depuis Windows 95. Donc, après, avec Thierry Breton, vous allez parler économie, budget et tout. Mais soyez honnête, Apolline, avec vous-même. Je sais que tout du long, vous allez avoir envie que ça se termine pour retourner chez vous, préparer le concert de Céline Dion. C'est sûr que vous allez faire. Thierry Breton, le budget, c'est si compliqué ? Mais Madame de Malherbe, soyons sérieux. En ce qui concerne le budget, s'il suffisait d'aimer... Non, pardon, Madame de Malherbe. En tout cas, il y a une direction pour réduire la dette. Moi, si j'étais candidat, j'irais où tu iras, où paye sera toi. Et vous allez enlever vos talons et chanter dans votre godasse comme avec un micro. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Allez, courage, Apolline. C'est bientôt le week-end spécial Céline Dion. En attendant, rendez-vous avec Thierry Breton, c'est 8h30.
Ce sera 8h30. Dans un instant, la météo et le journal. Et juste après, le grand entretien du vendredi, c'est le patron des laboratoires Sanofi qui répond à mes questions. On va parler santé, évidemment. Santé, budget, emploi, industrie et la France qui décroche vis-à-vis de ses voisins. Allez, à tout de suite, il est 7h27. 7h30 et c'est une France coupée en deux, Géraldine.
Avec un petit peu de pluie qui arrive, alors pas beaucoup, hein, ça changera pas grand-chose à la sécheresse, mais on a cette petite perturbation qui arrive par les côtes de la Manche, qui va légèrement s'enfoncer cet après-midi vers les Pays de la Loire, vers l'île de France. Mais sur les trois quarts du pays, c'est du soleil, avec toujours du vent près de la Méditerranée. Température contrastée ce matin, cet après-midi, on repasse au-dessus des normales de saison, il fera souvent 21 à 26 degrés, plutôt 27 à 30 près de la Méditerranée, les températures qui vont encore s'envoler pour le week-end.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h30 sur RMC, le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Le gaz suit les carburants, mais les Français, eux, pourront-ils suivre cette nouvelle augmentation du gaz annoncée hier, plus 6,3% au 1er octobre pour 6 millions de ménages qui limitent leur consommation sans voir baisser les factures. Des malades qui passent des mois en arrêt, mais qui ne voient aucun médecin. L'État s'apprête à publier 2 décrets pour enrayer les fraudes. Et puis le foot, belle soirée de Lens en Ligue des Champions, 3-2 contre Prague, et déjà la crise qui guette à Marseille en cas de 3e défaite consécutive en Ligue 1 ce soir à Rennes.
Les mois se suivent et se ressemblent pour vos factures de gaz.
Si vous faites partie de ceux dont le contrat est calé sur le fameux prix de référence, hausse en août, hausse en septembre, et devinez quoi, on l'a appris hier, hausse en octobre, plus 6,3%, soit environ 5 euros par mois, une goutte de plus, pas loin de faire déborder le vase des clients que vous avez rencontrés, Alfred Orange.
le voir pour le croire.
Quand j'ai vu la courbe, j'étais stupéfait.
En épluchant sa facture de gaz, José pensait recueillir le fruit de ses économies, lui qui a arrêté en début d'année de chauffer son pavillon la journée.
La consommation, elle est deux fois moindre, mais la facture, elle est toujours pareille.
Autour de 100 euros par mois, même tarif pour Marion qui n'a qu'une supplique.
Faut que ça s'arrête à un moment. Si tout augmente, au bout d'un moment, ça ne rentrera plus.
Et c'est exactement la conclusion à laquelle arrive Laura Boulangère avec son four à pain qui marche au gaz.
On ouvre à 3h du matin. On ferme, il est presque 20h. La préparation de l'écran pâtissière, tout ça, j'ai le gaz pour ça aussi.
Si cette hausse dure, elle sera contrainte d'augmenter le prix de son pain.
On part d'une augmentation de peut-être 10 centimes, 5 centimes. Le but de tout commerce aussi, c'est de vivre aussi.
Avec un détroit d'Ormuz toujours bloqué, le prix du gaz devrait encore augmenter dans les prochains mois, prévient Céline Stein, directrice générale du fournisseur d'énergie Octopus.
Notre estimation pour novembre, c'est qu'il y aura encore une augmentation de 5%.
Cette spécialiste conseille aussi de souscrire à une offre fixe pour se préserver temporairement de ces hausses successives du prix du gaz.
Et colère qui monte aussi sur les prix des carburants. La barre des 2,30€ le litre franchie pour le gazole, 2,12€ pour le sans-plomb 95, à tel point que de nombreux internautes appellent à des manifestations. On y reviendra dans le journal de 8h. Au rayon des mauvaises nouvelles économiques, l'INSEE a revu hier à la baisse sa prévision 2026 de la croissance française, revue à 0,4%. Tout ça en pleine élaboration du budget de l'État. Le gouvernement multiplie les pistes d'économie et les décrets de l'une d'elles vont être publiés d'ici quelques jours. Cela concerne les arrêts maladie. Alexandre Thibault avec un tour de vis du gouvernement.
Avec d'abord des sanctions pour les arrêts de courte durée. Le but est d'éviter le nomadisme médical quand on passe d'un médecin à l'autre pour obtenir plusieurs arrêts maladie d'affilée. Les abus pourront donc être pénalisés par l'assurance maladie. Et puis un durcissement des règles pour les arrêts de plus de 6 mois en dehors d'une affection longue durée. Il n'y a pas toujours de suivi médical, constate le gouvernement, selon qui, par exemple, un patient sur 3 arrêté pour des troubles musculo-squelettiques n'a pas vu un kiné dans l'année. La durée d'indemnisation passe donc de 3 à 1 an. En clair, moins d'indemnisation, mais plus d'accompagnement médical. Le diagnostic est bon, mais la solution est mauvaise, glisse un médecin, pour qui on généralise la sanction au lieu de traiter les abus au cas par cas.
Et c'est dans ce contexte que la CGT publie son chiffre annuel des morts par accident du travail. 783 en 2025, assure le syndicat qui dit se baser sur les données de l'assurance maladie. C'est un nouveau record. La justice va procéder le 2 octobre prochain à une reconstitution de la nuit de la mort de Delphine Jubilard. En présence de son compagnon Cédric Jubilard, poursuivi pour meurtre, son procès en appel est attendu à partir du 30 avril, reporté en juillet dernier après des aveux surprises. 6 mois ferme pour un parent d'élève du Fauga en Haute-Garonne. 6 mois de prison, condamné pour avoir menacé l'enseignante de son fils en CM2. Menace, je cite, de lui couper la tête. L'enfant va devoir changer d'école comme le prévoit une nouvelle mesure en vigueur. C'est une nouvelle saisie record. 3,9 tonnes de cocaïne découverte au port de Dunkerque. Le PNACO, c'est le parquet national anticriminalité organisée, s'est saisi de l'enquête. Et pour cause, la valeur marchande de cette saisie est colossale, Constance Bostoen.
Près de 225 millions d'euros. C'est la valeur de ces 167 ballots de cocaïne découverts dissimulés dans des déchets de plastique à l'intérieur d'un conteneur en provenance du Ghana et à destination d'Anvers. Les membres du réseau criminel responsable de cette importation de drogue n'ont pas encore été identifiés. Sur les réseaux sociaux, David Amiel, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, s'est félicité de cette saisie significative. Fermer toutes les portes et toutes les fenêtres aux trafiquants, c'est ce que nous faisons, écrit-il. Les trafiquants ne relâchent pas leurs efforts et nous non plus. Pour rappel, l'année dernière, plus de 108 tonnes de stupéfiants avaient été saisies par les douanes, tous produits confondus, pour une valeur estimée à plus de 2 milliards d'euros.
Au moins 8 blessés dans des frappes russes à Kiev. Cette nuit, les autorités ukrainiennes parlent de l'incendie d'un immeuble résidentiel de 9 étages. La population est appelée aux abris. Le sport, le foot et le miracle lensois en Ligue des Champions. Hier soir, mené 2-1 par le Slavia Prague à la 91e minute, les sang et or ont finalement marqué 2 buts en 2 minutes pour l'emporter 3-2. On espère autant de spectacles pour le début de la 4e journée de Ligue 1. Rennes reçoit un Olympique de Marseille déjà au pied du mur. Il faut éviter la 3e défaite en 4 matchs, Florent Germain.
Oui, l'OM est déjà sous pression. Après deux défaites consécutives, Marseille fait face à un calendrier compliqué en Ligue 1. Déplacement à Rennes ce soir avant le choc contre le PSG dimanche prochain. L'entraîneur Bruno Genesio préfère ne pas céder à la panique.
Il n'y a pas de peur. On est lucide sur notre début de saison en termes de résultats. On a aussi des qualités pour poser des problèmes à cette équipe rennaise qui est en forme, qui a fait un très très bon début de saison. On sait aussi que sur un match, on est capable de les inquiéter.
Une nouvelle défaite mettrait pourtant l'OM dans une situation déjà inquiétante. Alors que la saison ne fait que commencer, l'attaquant Amine Harit garde confiance.
Il y a des choses encore à régler, comme le coach l'a dit, on travaille dessus toutes les semaines. Quand je vois la semaine d'entraînement, je ne vois pas un groupe abattu ou apeuré par ce qui arrive. On est concentré, on va faire le maximum pour prendre le plus de points possible d'ici la trêve.
D'ailleurs, Genesio a annoncé qu'il ne ferait pas de grands changements dans sa composition d'équipe. Le staff de l'OM espère une réaction dès ce soir en Bretagne.
Et ce sera à suivre sur RMC, évidemment. Coup d'envoi 20h45.
Et puis le quintet, Victor.
Les courses à Vincennes, 20h15. Pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le 3, Enjoy the Moment. Son outsider, le 7, Destino DJ, le 3 et le 7.
C'était le journal de Victor Porcher. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Vieillissement de la population, financement de la sécu, investissement industriel, voilà le grand défi de la France face à la santé. Bonjour Charles Wolf, merci d'être mon invité pour la grande interview du vendredi. Vous êtes le directeur France de Sanofi et vous êtes également le représentant d'Initiative Pharma, c'est ce syndicat des industries pharmaceutiques. Sanofi, c'est un mastodonte de la santé dans le monde et vous prenez très rarement la parole dans les médias. Merci d'avoir choisi RMC ce matin. Il y a notamment la question de la souveraineté, Emmanuel, dans ce secteur qui est primordial, hein.
Et oui, la question c'est, on a perdu en compétitivité sur les médicaments, mais qu'est-ce qu'il faut produire? Est-ce qu'il faut produire tous les médicaments en France? Notre prix Nobel Jean Tirole, il dit ça sert à rien de produire du Doliprane, donc qu'est-ce qu'il faut privilégier comme production française?
Je vous pose la question évidemment dans un instant, votre regard et ce qu'il se passe aujourd'hui en France face à la santé. Charles Wolf, dans un instant, 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 sur RMC et RMC Story. Et parmi les défis, les nombreux défis de la France aujourd'hui, il y a cette question, quelle santé, quels médicaments pour la France de demain? C'est l'une des questions qu'on va se poser avec vous ce matin. Charles Wolf, bonjour. Vous êtes le patron France de Sanofi. Vous présidez aussi Initiative Pharma. Ça représente les principaux acteurs de l'industrie pharmaceutique, ceux qui ont choisi la France. On peut encore choisir la France quand on est dans l'industrie pharmaceutique?
C'est pas facile, mais nous on a fait le choix de la France et on porte cette voix très singulière, et surtout on porte le choix de la France pour les médicaments d'aujourd'hui et de demain. C'est très important que non seulement on ait effectivement une production des médicaments actuels sur le marché en France pour des raisons de sécurité sanitaire, d'accès aux médicaments pour les patients français, mais c'est encore plus important d'avoir les technologies d'avenir qui se produisent sur le sol français. Ça c'est clé.
On a de très nombreuses questions à vous poser ce matin sur effectivement la santé, sur l'avenir du médicament, sur l'industrie pharmaceutique aussi en France. Mais avant de commencer, on a appris hier ces chiffres catastrophiques pour la croissance française. Ce sera moins de la moitié de ce qui était initialement prévu. On s'oriente vers un plus 0,4. Et c'est surtout ridicule vis-à-vis de nos voisins qui, eux, face aux mêmes difficultés conjoncturelles, internationales, s'en sortent deux fois mieux. La France, aujourd'hui, malade de l'Europe du point de vue de l'économie. Quelles conséquences ça a pour vous au quotidien?
Pour nous au quotidien, c'est les pressions, je dirais, qui deviennent délétères avec les autorités sur les discussions de budget du médicament. Il y a une réalité. La réalité, c'est quoi? C'est le vieillissement de la population. On a besoin d'avoir une population qui soit accompagnée dans son vieillissement pour vieillir en bonne santé. Pour ça, on a besoin de plus de professionnels de santé. On a aussi besoin de plus de médicaments innovants qui vont traiter des cancers, qui vont accompagner.
Ce qu'on voit dans les chiffres, c'est qu'il y a une baisse de l'investissement des entreprises. Et qu'il y a aussi un recul de l'effort de recherche et développement.
Tout à fait. Et ça, pourquoi ça a chuté? Parce que les conditions d'accès en France sont pas bonnes pour les patients et sont pas bonnes pour les entreprises, et ce qui crée un gap de compétitivité de la France par rapport aux autres pays. Donc là où l'industrie française de santé était leader en Europe, on est passé numéro 5. Là où dans les essais
cliniques... En combien de temps?
En 20 ans. L'industrie, c'est en général les cycles longs. Et c'est là où on se confronte à des débats budgétaires qui sont comment on passe les 3 prochains mois. On va pas réindustrialiser.
En fait, il y a un décalage entre le côté né sur le guidon de nos politiques et vos investissements de long terme.
C'est ça.
Vos choix de long terme, voilà. Vos stratégies de long terme.
Et on en discutait tout à l'heure dans les couloirs. Il y a un élément. J'entends souvent, il n'y a pas de marge de manœuvre.
Cette interview, je dois le dire, a commencé en fait dans le couloir entre Emmanuel Lechypre et effectivement le patron de Sanofi. En rentrant, vous parliez effectivement de ces chiffres. Vous, ça vous inquiète? Comment vous vous projetez? Vous continuez à vous projeter en France?
Difficilement, mais en tout cas, on essaie de faire bouger les lignes. Et bouger les lignes, c'est quoi? C'est faire comprendre aux politiques, qu'ils soient au gouvernement ou les parlementaires, de faire comprendre qu'il faut changer de programme, qu'il faut passer à une réflexion de long terme. Et pour ça, il faut prendre des décisions qui soient ciblées, qui préparent l'avenir. Donc, les problèmes des Français, ils sont très concrets. Quand on dit un médicament n'est pas accessible en France, c'est quoi par rapport aux Allemands? Après une AMM européenne, en Allemagne, en 50 jours, le patient allemand, l'autorisation européenne, le médicament est approuvé en Europe, en 50 jours est disponible dans les pharmacies en Allemagne. En France, il faut plus de 500 jours. Concrètement,
500
c'est
500 jours pour transmettre, simplement pour passer de l'autorisation au à ça y est, il est dans les rayons.
À la décision de remboursement et donc
qu'est-ce
il est dans
que
les
c'est
rayons.
Cette qu'est-ce qui se passe pendant ces 500 jours?
On a des process, ok, on sait qu'on a des process en France, mais ça c'est une perte de chance pour les patients. C'est aussi pour nos industries, quand elles font le choix de mettre un centre R&D en France ou pas, c'est aussi un problème de recherche et développement, c'est un problème de compétitivité. Moi je peux vous dire que j'ai des collègues à Vitry qui ont développé des médicaments. Ils étaient scandalisés de pas pouvoir discuter avec leurs voisins en disant il est disponible en France alors qu'il était disponible en Italie, en Allemagne, etc. Donc ça, c'est une réalité pour les patients. Donc comment maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a décrit un tableau un peu noir, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut très vite changer de programme sur la façon dont on réfléchit la politique du médicament en France. Il faut se dire, au moins, décidons maintenant de prioriser, de sanctuariser les médicaments innovants et souverains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, un médicament est souverain, il doit être capable d'être lancé en France immédiatement, comme en Allemagne. Ça veut dire aussi, un médicament innovant et souverain, on va lui donner des conditions de prix qui lui permettent d'être attractif par rapport à d'autres marchés.
Mais c'est quoi un médicament souverain? C'est-à-dire que on a voulu symboliquement relocaliser la production de Doliprane, notre prix Nobel, Jean Tirole qu'on évoquait, dit ça sert à rien de s'acharner sur le Doliprane en France. On voit bien qu'on pourra pas tout faire. Donc il faut se spécialiser.
Est-ce qu'il faut choisir
sur certains médicaments ou sur certaines parties de médicaments.
Charles Wolff, je précise et je rappelle à ceux qui nous rejoindraient maintenant que vous êtes à la tête de Sanofi France. Allez-y.
Oui, vous avez raison, c'est pas suffisant. Il faut faire en priorité la relocalisation ou la localisation des technologies de demain. C'est ça qui fera que vous aurez une industrie qui est compétitive et qui permettra d'avoir des médicaments accessibles pour les patients français et qui contribuera à l'économie. Je vais vous donner deux chiffres. Les entreprises que je représente à travers l'initiative Pharma, aujourd'hui...
Les gros labos qui sont présents en France.
La Sécurité sociale nous achète des médicaments. Pour 1 euro qu'elle nous achète, donc 1 euro de dépense, nous, on contribue à plus de 2 euros au compte public à travers les charges sociales, à travers les taxes, etc. Pourquoi? Parce que on produit pour la France et le monde. Donc plus vous aurez une localisation des médicaments en France, et notamment des médicaments d'avenir, donc ceux qui vont durer dans le temps et qui vont permettre de trouver des nouvelles solutions aux patients, plus vous aurez une capacité de financement de votre système de santé.
Il y a Julien
sociale.
Qui nous a appelé de Montpellier, Julien qui est infirmier. Vous entendez le patron de Sanofi au micro de RMC ce matin. Vous, j'allais dire, qui êtes vraiment celui qui les distribue ces médicaments, qui les donne à vos patients et qui veille à ce qu'ils les prennent. Ça fait écho à ce que vous voyez?
Alors oui, et en plus moi j'habite à Celle-Neuve, je suis à deux pas du centre du pôle Sanofi Montpellier. Bon, ouais. Ça c'est une petite parenthèse. Mais après, non oui, mais le problème c'est que c'était fin des années 90-2000, on a décidé, alors les gens je sais pas pourquoi, de remplacer les médecines de diagnostic par les médecines de prescription. Et donc on a produit du médicament et on a totalement laissé tomber la recherche. Et c'est exactement pareil chez les médecins, c'est-à-dire qu'on a surmultiplié les généralistes et aujourd'hui on manque de spécialistes avec une population qui vieillit. Et donc tout vient de là.
Donc ça, c'est ce que vous constatez aussi, dire au bout de la chaîne, Charles Wolff.
Oui, en fait, c'est exactement comme l'a dit cet auditeur. En fait, on a besoin d'avoir une anticipation, une vision à long terme de notre santé. Le vieillissement de la population ne va pas s'arrêter demain. C'est pas pour les 3 prochains mois, c'est pour les 20 prochaines années. Donc il est urgent d'agir. Vous savez, aujourd'hui, moi, je discute avec les autorités, mais aussi certains partis politiques dans le cadre des présidentielles. Et ce qui me choque, c'est qu'ils sont tous dans une espèce de pause politique.
Mais justement,
il y a pas
c'est
pas de pause économique.
Parce que en fait, ce dont vous nous parlez ce matin, c'est de souveraineté. On ne peut pas dire que depuis 2 ou 3 ans en France, la souveraineté, c'est pas un sujet permanent.
Tout le monde en parle.
Choose France, les investissements étrangers, la souveraineté militaire, l'industrie. Est-ce qu'au niveau du médicament, c'est tout aussi important que notre armement ou que les investissements dans nos entreprises? Est-ce que vous vous sentez soutenu d'une part par les autorités dont vous parlez? Et deuxièmement, est-ce que vous les considérez à la hauteur des enjeux?
Alors, écoute attentive, oui. Dans les actes, je vois rien.
Rien du tout.
Et c'est ça le sujet. Et alors, j'entends
qu'il y a un temps politique. C'est le décalage permanent entre les paroles et les actes.
C'est une réponse très claire.
En fait, si vous voulez, le temps politique, ok, il est ce qu'il est, mais la santé des patients, le temps économique, les décisions d'investissement, d'industrie qui s'installent à droite ou à gauche, ça, c'est tous les jours. On ne peut pas avoir un temps politique qui congèle le reste. Le monde continue d'avancer autour de nous. Les Allemands réagissent, les Italiens réagissent, les Espagnols réagissent. Et que fait la France ?
Mais, Emmanuel. Alors, on entend beaucoup vos critiques sur l'environnement réglementaire, fiscal, incitatif à l'innovation, etc. Mais est-ce que c'est pas dédouaner un peu vite aussi les grands labos, peut-être de leurs erreurs? Regardez sur les épisodes Covid, etc. Les vaccins, Sanofi, ça a pas bien marché. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas en France aussi les talents finalement? Est-ce qu'on a laissé partir aussi les talents? Qu'est-ce qui fait qu'on est moins bon aussi? Est-ce que c'est juste environnement réglementaire fiscal?
Alors en fait, en recherche pure, il y a beaucoup d'expertise en France. Et ça, je pense que vous avez des centres de compétences en oncologie, en immunothérapie. Il y a aussi des centres d'expertise très forts aux États-Unis et aux Chine, et on travaille aussi avec eux. Le problème, c'est un problème d'échelle en France. Et c'est un problème d'attractivité, de compétitivité de nos marchés français et européens. Jusque-là, on était dans un monde où les frontières étaient ouvertes. Donc quelque part, quand on avait une capacité de développement en France, etc., on exportait. Maintenant, c'est fini.
C'est fini,
les,
ça.
Les US et la Chine sont partis sur ont décidé de redessiner les cartes de l'industrie de santé. Et la France et l'Europe, pourquoi? Parce que les US payaient les médicaments beaucoup plus cher que les autres pays. Donc, quelque part, ils payent la R&D, la recherche et le développement des médicaments du monde.
Donc et un aujourd'hui, jour, ils décident de cesser.
Oui,
c'est en fait ce que vous êtes en train de décrire dans le monde de la santé et du médicament. C'est aussi ce qui s'est passé du côté de la défense.
Tout à fait.
C'est la fameuse expression d'Emmanuel Macron, la fin des dividendes. C'est-à-dire cette idée que au fond les États-Unis payaient pour nous et que nous du coup on pouvait se concentrer sur d'autres choses. On a eu ce réflexe pendant longtemps, y compris sur la santé. Aujourd'hui, vous nous dites l'ère a changé. On est entré dans un nouveau monde. Ça n'est plus la mondialisation. C'est chacun pour soi.
Exactement. Et la question aujourd'hui, parce que on peut pas contrôler ce que font les États-Unis ou la Chine. Par contre, que peut faire la France et l'Europe? Prendre son destin en main.
Mais c'est là où on se retrouve confronté aussi, ce que disait Apolline, aux mêmes problématiques que dans d'autres secteurs comme la défense. C'est que face à des géants chinois et américains, vous avez quand même une sorte de fragmentation européenne qui font que finalement tous les grands labos européens jouent en deuxième division par rapport aux grands labos mondiaux.
Comment faire? Quelles armes? Comment on réagit?
Ça va être du cycle long. D'accord? Donc, au niveau de la France, commencer à faire le choix.
Déjà, faut se réveiller.
Voilà, faut se réveiller et faire des choix forts et non pas des choix aveugles, d'accord? Ou en tout cas, on laisse le truc tenir pour espérer que dans 3 mois, la situation soit meilleure. Elle ne sera pas meilleure, ni au niveau géopolitique, ni au niveau démographique. La deuxième chose ensuite, c'est probablement l'échelle européenne va être nécessaire. Mais déjà, il faut que la France se renforce dans l'échelle européenne. Parce qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de terrain par rapport à nos voisins européens. Néanmoins, en termes d'expertise, en termes de vision de la santé, l'Europe et la France sont des forces. On a de l'expertise aussi.
Et quand vous regardez le résultat du classement PISA, notamment sur les sciences, est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir, pour les talents d'avenir en France?
Ce qui m'inquiète, c'est... Alors nous, d'un point de vue recrutement, on arrive à trouver des talents en France. On a investi, on a 3 accélérateurs digitaux, notamment dans l'IA, etc. On a des compétences en France. Ce classement, bien sûr, il est inquiétant pour nos enfants.
Pour les générations.
Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces rapports? On fait des rapports, ça va mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, à nouveau, d'ailleurs, pour avoir lu quelques articles sur PISA, ça va être du long terme. C'est pas quelque chose, et pour avoir vécu dans beaucoup d'autres pays dans le monde, c'est des choses qui se règlent en 2 décennies.
On a vraiment un problème de rapport au temps. C'est-à-dire que, au fond, ce que vous nous dites, c'est qu'il faudrait avoir des dirigeants qui regardent, au-dessus du guidon et qui effectivement prennent des décisions de long terme. Or, nous sommes dans un calendrier qui est un calendrier électoral, politique, qui est un calendrier immédiat.
Oui, mais ils peuvent bouger.
Ils peuvent bouger et vous êtes venu sur RMC pour alerter. C'était passionnant. Merci d'avoir choisi RMC pour vous exprimer ce matin. Charles Wolff, vous êtes le directeur France de Sanofi, président donc d'Initiative Pharma qui représente les principaux acteurs de l'industrie pharmaceutique en France. Merci à vous. Il est 7h54 sur RMC. Dans un instant, le bonus avec Mathieu Bélien. Le groupe mythique Oasis est de retour pour le plus grand bonheur de Géraldine Nemory, vous l'entendrez. Et puis à 8h10, cette enseignante menacée de décapitation par un parent d'élève. Émotion immense de la communauté enseignante. Nous serons avec le représentant des directeurs et directrices d'école qui sera sur RMC dans 10 minutes. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, avec l'autre événement musical du week-end.
Il n'y a pas que Céline Dion.
Ouais.
Oasis est de retour, cette fois sur grand écran. C'est aujourd'hui que sort le documentaire Oasis Don't Look Back in Anger. 2 heures dans les coulisses de la tournée événement de 2025, celle qui a réuni les frères Gallagher, Liam et Noël, après 16 ans de brouille. On les voit répéter, se retrouver, plaisanter et surtout remonter ensemble sur scène, loin, loin de la séparation légendaire. C'était à Paris, Rock en scène 2009. Et alors justement, le groupe a publié une mystérieuse vidéo cette semaine, tournée dans la capitale. On y reconnaît une affiche du festival de 2009, mais aussi l'épicerie d'Amélie Poulain. Le chanteur mâche et jette une prune. Ah, c'est important parce qu'il avait jeté une prune sur son frère en 2009 avant de casser sa guitare préférée. Les fans ont tous la référence, n'est-ce pas Géraldine?
Exactement, le
Plumgate. Des fans qui voient déjà les premiers indices d'une nouvelle tournée européenne. Alors pour l'instant, aucune date n'est officiellement annoncée. Ça va venir, on vous tiendra au courant. Et Géraldine est au cinéma ce soir.
Géraldine a dit ce soir.
Exactement, je vous raconte.
Merci Mathieu.